Donc pour me présenter un petit peu plus, moi je suis physicien de formation. Je fais l'essentiel de ma carrière au CNRS et maintenant je suis détaché comme professeur donc à l'université Pierre et Marie Curie et à l'école polytechnique. Et je dirige un institut dont le logo est là-haut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est en fait une fédération de laboratoires en région parisienne. Donc il y a 6 laboratoires qui sont des laboratoires assez gros au total. Les 6 laboratoires qui vont devenir 9 dans notre fédération représentent plus de 1000 personnes qui travaillent sur ce qu'on appelle le système climatique. Alors, la raison d'être de cet institut, c'est qu'on avait au départ des laboratoires qui travaillaient les uns sur l'atmosphère, la physique de l'atmosphère, d'autres sur la chimie de l'atmosphère, d'autres sur l'océan, d'autres sur les surfaces continentales. Et ce qu'on a cherché à faire dans les 20 dernières années à peu près, ça a commencé avec d'autres personnes que moi, j'ai succédé à Jean Jouzel, à la direction de cet institut, c'est regarder le système climatique comme un tout. Alors, on va parler de climat. C'est toujours difficile un peu de bien définir le mot climat. Le mot climat est un mot qu'on entend beaucoup, qui prend des significations qui peuvent un peu varier selon le contexte. Et moi, je préfère d'abord parler du système climatique, et ensuite on verra le climat comme l'état du système climatique. Alors, c'est quoi ce système climatique? Ben, c'est en gros le monde dans lequel on vit, au sens large. C'est un système qui comporte deux grands fluides, que j'ai nommés tout à l'heure, l'océan, qu'on appelait l'hydrosphère autrefois. Alors, aussi un mot d'excuse. La langue des scientifiques, c'est l'anglais. Moi, je suis scientifique, pas conférencier. J'ai un ami qui m'a proposé de reprendre les transparents, de les traduire en français. Je vais essayer d'en profiter, mais pour le moment, j'ai pas. Donc, beaucoup de ces documents sont des documents qui sont issus de la littérature qu'on utilise, nous, et qui est largement en anglais. Alors, je pense que c'est pas très grave. Je vais traduire et je vais dire tout ce qui est important. Et puis, les images sont surtout là pour leur aspect graphique. Il faut pas certainement pas tout lire, mais voilà, il y a ce problème de l'anglais qui va peut-être un petit peu ennuyer certains. Alors, je disais que un premier fluide, c'est l'océan qu'on appelait l'hydrosphère, donc le mot est le même en français et en anglais, un accent près. Il y a l'atmosphère. Il y avait aussi dans l'idée de la séparation du monde en différentes sphères, la cryosphère sur les continents. Et sur les continents, ben on a un élément qui est très important dans le système climatique, qu'on appelle la biosphère. C'est un mot qui a été inventé au début du XXe siècle par un physicien russe qui s'appelait Vernadsky, qui a le premier compris que la biosphère est un élément indispensable à la compréhension de la fonctionnement du fonctionnement de ce système environnemental, de ce système climatique dans lequel on vit. Alors, tous ces éléments ont des vitesses d'évolution très différentes. L'atmosphère est un système très rapide, qui réagit de manière très rapide à toutes les stimuli, qui est aussi très difficilement prévisible. Au bout de 10 jours, on ne sait pas prévoir dans le détail ce qui va se passer dans l'atmosphère. L'océan, lui, a une évolution beaucoup plus lente. Les courants océaniques sont souvent 100 fois plus lents que les vents atmosphériques. Et l'océan a aussi une inertie, une masse qui est colossale comparée à celle de l'atmosphère. Donc, l'océan, lui, donne le tempo très lent à certains phénomènes. Donc, c'est une sorte de métronome très lent des systèmes climatiques qui est tout à fait complémentaire et très différent, finalement, de l'atmosphère. Et on a un système, donc, qui est fait aussi de sous-systèmes très complexes. Les continents, c'est les fleuves, c'est la végétation, c'est le sol. Qui absorbe du carbone, c'est beaucoup de choses qui sont très complexes. Donc ce système-là, finalement, fonctionne comme un tout, et c'est ce tout dont on va essayer de regarder l'évolution à des échelles de temps qui sont celles des actions humaines, qui vont être l'échelle des décennies. Alors, ce que je peux voir, c'est que le fonctionnement de ce système comme un tout, il est lié à des échanges entre tous ces systèmes. Les échanges peuvent être des échanges d'énergie, peuvent être des échanges de mouvements, hein, c'est l'atmosphère qui entraîne très largement les mouvements océaniques, peuvent être des échanges d'eau, peuvent être des échanges de carbone, de CO2, de carbone, peuvent être aussi des échanges d'autres composés chimiques, des polluants de différentes sortes. Donc tout ce système évolue sous l'effet d'échanges multiples, et c'est cela qu'on a besoin de considérer comme un tout et d'étudier comme un tout. Alors on appelle climat, finalement, l'état considéré sur une trentaine d'années. Hein, l'Organisation météorologique mondiale définit le climat sur une période de 30 ans. Donc c'est l'état considéré sur une trentaine d'années de ce système complexe. Le climat, pour nous, c'est ça. Originellement, le mot climat voulait dire quelque chose de tout à fait différent. C'est un mot, je ne parle pas grec, mais enfin, on me l'a dit, je le crois, c'est un mot grec qui veut dire orientation. C'est l'orientation des rayons solaires qui font qu'il fait plus chaud à l'équateur que dans les régions polaires. Mais il a pris ce sens complexe au fil des années, qui est de définir l'état sur plusieurs décennies de ce système climatique complexe. Donc il faut bien différencier ça de ce qui est météo. Météo, c'est l'évolution au jour le jour des choses. Le climat, c'est la statistique de ce qui se passe sur une trentaine d'années à l'échelle de la planète en termes de notre environnement. Alors ce système climatique, il a varié, ce climat, il a varié au fil des années de manière complexe. Et je vais essayer de me focaliser sur une période très précise qui sont les derniers milliers d'années et les prochaines centaines d'années. Alors, quand même, quelques mots de tout ce qui précède et tout ce qui représente les évolutions à plus long terme du système climatique. La planète, elle a 4 ou 5 milliards d'années. On sait définir un climat de la planète depuis 500 millions d'années à peu près. Et on sait que la planète est passée par des épisodes de glaciation, par exemple, par des épisodes de plus chaudes que l'époque actuelle, par exemple à l'époque tertiaire. Donc elle a eu une évolution, mais à l'échelle des échelles de temps qui sont considérablement plus importantes que celles qu'on va considérer aujourd'hui. Si on regarde les périodes de temps plus courtes, on a aussi, tout au long de ce qu'on appelle le quaternaire, les deux derniers millions d'années, c'est tout petit à l'échelle de l'histoire de la planète, 2 millions d'années, les deux derniers millions d'années, là où on a des hominidés, on a eu des successions d'âges glaciaires et d'âges interglaciaires. Alors le dernier âge glaciaire, l'origine est astronomique, elle est parfaitement naturelle, c'est les mouvements de des grosses planètes autour de qui perturbent celui de la Terre, c'est les variations de direction de l'axe de rotation de la Terre liées à la Lune, c'est un certain nombre de phénomènes qu'on sait calculer, qui font que le climat a fluctué. Les dernières grandes glaciations, c'était il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, on a pour la dernière fois l'Europe, les États-Unis qui sont couvertes de glace. Donc là, les hommes étaient bien présents. Hein, les Néandertaliens étaient disparus, ou presque, et on avait Cro-Magnon qui était là, et on avait déjà des hommes comme nous, il y a 20 000 ans, au moment de la dernière déglaciation. Au dernier moment de la dernière glaciation, et donc aussi au moment de la dernière déglaciation. Nous, ce qu'on va considérer, c'est une période plus courte, qui est une période de 10 000 ans, pour commencer. Cette période de 10 000 ans, c'est ce qu'on appelle l'Holocène. L'Holocène, c'est le climat chaud, relativement chaud, on est sorti des glaciations, dans lequel se sont développées nos civilisations. Et ce climat chaud, c'est un climat qui finalement est très stable, qui est marqué par une très grande stabilité. Et pendant 10 000 ans, donc, on a eu un climat d'une très grande stabilité. Alors, cette stabilité, il y a beaucoup de manières de la voir. Ce climat a été très, très étudié. Il y a des milliers de scientifiques qui étudient le climat des derniers milliers d'années en prenant des témoignages au fond des océans, dans les glaces. Moi, je vais montrer un seul paramètre, une seule série de paramètres. C'est des gaz qu'on mesure dans les glaces, à partir des petites bulles dans les glaces, et qui permettent c'est un indicateur de l'environnement, et ce sera aussi des gaz qui vont nous servir à comprendre ce qui peut se passer dans le futur, parce que ce sont les gaz à effet de serre. Alors, je reviendrai sur cette notion de gaz à effet de serre. Pour l'instant, ce que je veux surtout montrer, c'est cette rupture qui correspond à, d'abord, je vais prendre une petite flèche ici, si vous regardez la période de 10 000 ans, vous avez, sur toute cette période-là, des gaz, alors ça c'est le CO2, qui restent à peu près constants tout le temps, et c'est des mesures qu'on a pu faire dans beaucoup de glaciers, et c'est toujours pareil. Vous avez le méthane, ici, qui reste aussi toujours constant. Vous avez le protoxyde d'azote, qui reste toujours constant. Et puis on a la période récente. Hop là. On a la période récente où les choses s'emballent et changent. Donc, les changements dont on va parler sont des changements qui sont pas nouveaux à l'échelle de l'histoire de la planète, mais qui sont nouveaux par leur rapidité et qui sont nouveaux parce qu'ils se superposent à une période de très grande stabilité du climat pendant laquelle se sont développées nos civilisations. Alors maintenant, vous avez des petits encadrés en gris. Donc ça, c'est l'évolution du CO2, du méthane, de l'oxyde, du protoxyde d'azote sur des périodes de 10 000 ans. Vous avez un petit encadré qui montre les évolutions sur 200 ans, les 200 dernières années. Et ce que vous pouvez voir, c'est que cette augmentation des gaz à effet de serre, du CO2 dans l'atmosphère, elle est en fait beaucoup plus forte à partir de 1950. Et ça, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien à partir des émissions de gaz à effet de serre que l'on peut mesurer de manière tout à fait différente à partir du commerce, du charbon, du pétrole, du gaz naturel, et qui sont représentées sur ce diagramme-là. Alors ce diagramme, qui est en fait le collage que j'ai fait de manière assez artisanale de deux autres diagrammes, sont les résultats qui sont compilés par l'Agence internationale de l'énergie, qui en regarde depuis beaucoup d'années, justement, quel commerce on fait du charbon, du pétrole, du gaz naturel, et on sait qu'en gros, tout ce qui est acheté est brûlé, et tout ce qui est brûlé emmène du CO2 dans l'atmosphère. Alors, ce CO2, il est repéré ici en unités qui sont des gigatonnes de carbone. GTC, c'est gigatonnes de carbone, c'est des milliards de tonnes de carbone qui sont des millions de tonnes par année. C'est pas un cumul. Donc vous avez des chiffres par année. Par exemple, moi je suis né en 1956. 1956, on avait 1 à 2 milliards de tonnes de carbone qui étaient émises chaque année dans l'atmosphère. Alors, on y reviendra. On essaiera d'y revenir, mais les spécialistes du cycle du carbone nous disent qu'il faudrait ne pas dépasser 3 ou 4 milliards de tonnes de carbone si on veut que le climat soit stable. On reviendra sur pourquoi les gaz à effet de serre jouent sur le climat. Ce niveau de stabilité ou ce niveau d'émission permettant la stabilité, on l'a dépassé donc en gros dans les années 70. Alors, il faut aussi un certain délai. Le CO2, c'est un gaz qui est un gaz qui reste très longtemps dans l'atmosphère. Une fois qu'il est dans l'atmosphère, il faut un siècle pour que la moitié à peu près de ce qui a été mis dans l'atmosphère soit évacué. Donc, c'est un gaz qui va se cumuler sur plusieurs décennies dans l'atmosphère. C'est aussi un gaz qui va agir lentement. Tout ce qui chauffe le système climatique doit chauffer les océans. Ça prend du temps. Ça prend plusieurs décennies, là aussi. Donc, ce qui est naturel, c'est qu'en fait, on voit les effets de ces gaz à effet de serre à partir des années 90. Et tout ça pour dire qu'on est face à un problème qui, finalement, est très récent. Et c'est le premier message fort que je voudrais donner, c'est que les changements dont on va parler, ensuite, sont des changements qui commencent, moi, quand j'étais au lycée, hein, qui sont des changements qui ont des effets qui sont plus tardifs, hein, la naissance de mes enfants. C'est des choses qui sont récentes et dont les effets sont des effets futurs, pour l'essentiel. Essayer de comprendre les changements à partir de ce qu'on voit, c'est une mauvaise idée. Ce qu'on voit, par essence, c'est pas le futur. On est face à des changements qui, pour l'essentiel, vont être des changements futurs. Alors, maintenant, il y a aussi dans ce diagramme deux étapes. Il y a une première étape, premier diagramme qu'on avait fait avec Jean-Marc Jancovici dans un premier livre et qui s'arrête en 92. 92, c'est le sommet de la Terre à Rio. Et ce sommet de la Terre à Rio, c'est le premier moment où les gens font signent un traité. Tous les États de la planète ont signé une convention cadre des Nations Unies sur l'évolution des changements climatiques. Et cette convention cadre, elle est là pour dire qu'on doit essayer d'éviter des interférences dangereuses, des actions dangereuses pour le système climatique. Cette convention cadre, elle a donné lieu à un protocole qui est très connu, qui est le protocole de Kyoto, où un certain nombre d'États se sont engagés à faire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, en étaient dispensés les États en émergence, comme la Chine ou l'Inde, s'en sont dispensés d'autres États qui n'ont pas voulu ratifier ce protocole, comme les États-Unis, le Canada, enfin le Canada qui a ratifié puis qui est revenu là-dessus, l'Australie aussi. Et le résultat, c'est que les émissions ont continué de croître. Et vous avez ici ce qui s'est produit dans les dernières décennies. La dernière décennie nous a amené à un niveau d'émissions de CO2 qui est plus proche d'une dizaine de milliards de tonnes par an, en grande partie, en fait, à cause de la croissance des émissions chinoises, des émissions indiennes, des émissions des grands pays émergents. Ce qu'on peut dire, c'est que ça correspond d'une certaine manière aussi à une assise plus large des émissions. C'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 1990, c'était 10 à 20% de la population mondiale. Et depuis, c'est une partie plus grande de la population mondiale qui fait la même chose. Les Chinois font ce qu'on a fait, font ce qu'on fait, mais avec un peu de retard. Et du coup, leurs émissions pèsent lourd dans la poursuite de ces évolutions. Donc on est face à une situation qui est une situation en évolution rapide, en évolution qui n'est pas freinée pour le moment par aucun traité. Et bon, j'y reviendrai à la fin, mais dans les questions. Mais c'est une situation donc qui fait qu'on doit s'attendre à des changements à venir, quoi que l'on fasse maintenant, en termes de réduction ou de mesures qui seront prises au niveau international. Alors maintenant, ce CO2 qui est émis, pour regarder un tout petit peu plus précisément ce qu'il devient. Donc, vous avez ici une image qui est déjà en même temps un peu trompeuse. Vous avez les émissions de CO2. Ben, pour une grande partie, c'est la combustion du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Et cette émission de charbon, de pétrole, de gaz naturel produit du CO2. Alors, j'ai laissé cette image ici, qui est une image que reprennent aussi beaucoup les télévisions, enfin, elle est très, très populaire. C'est une image de cheminée qui crache de... Alors, elle crache, en fait, de la vapeur d'eau. Donc, c'est pas du tout du CO2. Elle crache des polluants aussi, mais c'est... Le CO2 est transparent. Le CO2 est transparent, ça pose un gros problème aux télévisions, ça pose un problème aux télévisions, mais ça pose aussi un problème dans l'imaginaire qu'on construit autour du CO2. C'est-à-dire qu'il y a une confusion qui se fait entre la pollution... pollution urbaine, par exemple, qui est une pollution toxique, qui est ennuyeuse parce qu'elle est toxique, et puis le CO2, qui est quelque chose d'un peu différent. C'est un gaz transparent qui, petit à petit, s'amasse et qui a un caractère qui réchauffe la planète. Ce gaz, parce qu'il l'empêche de se refroidir, je vous redonnerai quelques chiffres après, et donc ce CO2 qui empêche la planète de se refroidir, ben, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on mesure, mais quelque chose qu'on ne voit pas, qui est très différent, en fait, des gaz de pollution. Alors, il n'y a pas que l'usage des combustibles fossiles, du charbon, du pétrole, du gaz naturel. Il y a aussi un peu les cimenteries qui contribuent à ça. Il y a aussi la déforestation. La déforestation, si elle n'est pas recompensée par une repousse suffisamment rapide des arbres, c'est du CO2 qui s'en va dans l'atmosphère. Et en fait, c'est une source importante, hein, c'est presque de l'ordre d'entre 10 et 20% en plus, qui est dû à la déforestation. Et tout ça, ben, où est-ce que ça s'en va ? Ça s'en va pour moitié dans l'atmosphère, directement. Cette moitié qui va rester ensuite très longtemps dans l'atmosphère. Il y a un quart, c'est en haut, donc, il y a un quart tout en bas qu'on sait mesurer maintenant, parce qu'on a des bouées qui permettent d'aller à... Dans l'atmosphère, on sait très bien mesurer le CO2. C'est assez facile d'attraper de l'air. Le CO2 reste longtemps dans l'atmosphère, il est bien mélangé, il a à peu près l'atmosphère a la même composition atmosphérique en CO2 à peu près partout sur la planète. Donc c'est assez facile à mesurer. L'océan, c'est plus difficile parce que l'océan met plus de temps à se mélanger, mais on a maintenant des bouées un peu partout, des bouées qui envoient leurs données vers les satellites. Donc on a maintenant des mesures beaucoup plus précises qu'avant sur le contenu en CO2 de l'océan. Et la progression de ce contenu en CO2. Donc on sait que c'est à peu près un quart de ce qui est émis. Et puis, ben, il reste un quart. Et sur ce quart-là, il n'y a pas 36 solutions. C'est un quart que reprend la végétation. Alors, pendant beaucoup d'années, on voyait un peu comme positif le fait que tout n'aille pas dans l'atmosphère, tout ne contribue pas à un réchauffement futur. Bon, maintenant, on sait qu'au moins le quart qui s'en va dans l'océan, il pose aussi des problèmes. pose des problèmes d'acidification des océans. Toutes les espèces à coquilles sont un petit peu menacées par cette acidification, les coraux aussi. Donc, en fait, il y a aussi un problème du CO2 dans l'océan, dont je parlerai très peu, mais qui est un problème important. C'est ce problème d'acidification qui a été découvert et vraiment pris en compte de manière adéquate il y a une dizaine d'années seulement. Avant, on n'avait pas une conscience très aiguë de ce problème-là. Voilà. Alors, juste un mot pour dire que... Alors ça, c'est un diagramme qui est très compliqué et qui est en plus en anglais. Alors, je vais essayer d'en dire plusieurs choses générales. La première, c'est que cette complexité-là, c'est déjà quand même un signe de la complexité de nos sciences et de la complexité, de la difficile traduction de nos sciences vis-à-vis des décideurs, du grand public. Ça, c'est issu d'un rapport du GIEC, du dernier rapport du GIEC. C'est un des tableaux principaux du dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a un mois et demi. Ce rapport du GIEC, c'est même quelque chose qui est dans ce tableau, qui est même dans le résumé pour décideurs du rapport du GIEC. Donc dans la partie la plus simple, en principe, de la traduction que la communauté scientifique fait de ses résultats pour les décideurs. Alors, c'est un très gros problème, parce que nos sciences sont beaucoup plus compliquées que l'idée qu'on s'en fait quelquefois. Et donc je vais essayer de pas rentrer dans cette complexité, mais quand même de la laisser deviner un petit peu. En gros, chaque année, sur la planète, il y a une trentaine de milliers de papiers scientifiques. Des papiers qui sont complexes. Donc, il y a eu à la fois, dans les années 70, 80, quand on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes qui étaient problèmes de ce système climatique global, il y a eu deux mouvements. Il y a eu un mouvement d'organisation de la communauté scientifique. Si on veut comprendre comment fonctionne la planète, il faut des satellites, il faut des bateaux, il faut des avions. Il faut que tout ça soit coordonné entre les différents pays de la planète. Donc il y a un programme mondial de recherche sur le climat. Il n'y a jamais eu d'agence d'observation du climat de la planète, ça ne s'est jamais créé. Mais c'est plutôt les chercheurs eux-mêmes qui ont créé des programmes internationaux. Il y a un programme mondial de recherche sur le climat, il y a un programme qu'on appelle géosphère-biosphère, où les chercheurs s'assemblent et puis essaient de coordonner les choses, d'avoir des continuités dans les mesures par satellite, d'avoir une complémentarité dans les mesures par satellite, que tous les bateaux océanographiques n'aillent pas dans le même océan en même temps, mais se répartissent sur les différents océans. Tout ça a l'air de rien, mais c'est un travail assez important. Et ça, c'est le travail des programmes scientifiques. À côté de ça, on s'est rendu compte que il y avait un besoin de traduire cette science vis-à-vis des décideurs, et ça a été la création du GIEC. Contrairement à ce qu'on pense, donc le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études d'experts sur le changement climatique, le GIEC ne fait pas de science. Le GIEC fait une traduction de la science sous forme d'un rapport. Ce rapport est validé par plusieurs exercices de revues successives, et validé ensuite par un vote, et c'est en plus exactement son résumé, est validé ligne à ligne par une assemblée générale de scientifiques nommés par différents gouvernements. Mais c'est un exercice de traduction de la science, et c'est pas un exercice complètement de science. Et donc ce diagramme donc le GIEC a été formé à peu près dans la même époque, fin des années 80, et le premier rapport du GIEC était en 90. Ça, c'est le résultat du cinquième rapport du GIEC, qui était il y a un mois. Alors, que dit ce document un petit peu compliqué? Ben, il essaie de traduire la présence des gaz dont j'ai parlé, donc le CO2, le dioxyde de carbone, le méthane, CH4, des gaz dont j'ai pas parlé, par contre, les halocarbones, les fréons en français, les fréons, et puis le protoxyde d'azote que j'ai signalé, quelquefois l'oxyde nitreux. Tous ces gaz-là, ben, ils ont un pouvoir réchauffant. Ce pouvoir réchauffant se manifeste par le fait qu'il y a des barres qui sont à la droite de cet axe. Là, à la droite de cet axe, quand c'est positif, ça veut dire que ça chauffe. Donc ça chauffe ici, le CO2 chauffe. Le méthane, ou les produits qui en sont dérivés, chauffent. Les fréons chauffent. Ces gaz chauffent. Et ces gaz restent longtemps. Donc j'ai dit le CO2, c'est de l'ordre d'un siècle. Le méthane, c'est de l'ordre de 10 ans. Les fréons, c'est aussi de l'ordre de quelques décennies ou quelques siècles. Et puis N2O, c'est de l'ordre aussi du siècle. Donc tous ces gaz en haut sont des gaz qu'on appelle des gaz à effet de serre de longue durée de vie et qui réchauffent la planète. Alors comment est-ce qu'ils réchauffent la planète? L'image, si on les appelle gaz à effet de serre, c'est l'image typique justement d'une serre. Dans une serre, qu'est-ce qui se passe? Ou dans une voiture aussi qu'on laisse au soleil, le rayonnement solaire traverse la vitre, il chauffe, on prend de la voiture, il chauffe les coussins, il chauffe les... et puis donc la voiture essaie de se débarrasser de cette chaleur, elle envoie un rayonnement qui est un peu différent, qui est infrarouge, et qui lui ne s'échappe pas, la voiture, il reste piégé dans la voiture, parce que il y a une certaine dissymétrie, le rayonnement solaire rentre, mais le rayonnement émis par la voiture, lui, piège, est piégé. Donc la planète, c'est pareil, l'atmosphère, via les gaz à effet de serre, est empêchée fait que la planète Terre est empêchée de se refroidir. Et c'est grâce à ces gaz, et ces gaz restent longtemps, et donc leur effet est cumulé sur de longues périodes de temps. Alors, quand on regarde l'état de l'atmosphère, quand on regarde la pollution atmosphérique, on a beaucoup d'autres produits. Et ce beaucoup d'autres produits, c'est quelque chose qui complique le diagnostic, et donc il faut faire attention que c'est autre chose malgré tout. Donc vous avez ici des gaz qui sont des gaz toxiques. Alors les gaz toxiques, ils sont effectivement, il faut s'en débarrasser au plus vite. Il faut essayer donc de supprimer leurs émissions. Il y a des politiques très actives de qualité de l'air qui fonctionnent maintenant bien dans les pays occidentaux, qui moins bien dans les pays émergents comme la Chine où il y a des gros problèmes de ce côté-là. Mais ces gaz toxiques restent typiquement une semaine dans l'atmosphère. Ils sont toxiques parce que justement ils sont très actifs, posent des problèmes de santé, ils ont une chimie très, très corrosive. Ils restent pas longtemps dans l'atmosphère. Ah, ils ont néanmoins un impact sur le changement, sur le réchauffement de la planète. Vous voyez que généralement ils réchauffent un peu. Et ils ont aussi il y a aussi des particules. Alors les particules peuvent être des particules qui sont issues des gaz toxiques ici, c'est d'autres particules aussi, tout ce qu'on émet associé au charbon, associé au sulfate, associé à la combustion de forêt, et toutes ces particules, elles, ont tendance à refroidir la planète. Donc le bilan réel de tout ça est un petit peu difficile à faire, mais ce que l'on sait, c'est que, et deux choses, c'est que quand on regarde en bas, la manière dont la planète a été réchauffée par tout ça, on avait un chiffre en 1950 qui semblait être autour de 0,5 watts par mètre carré. C'est une unité à retenir, c'est une unité arbitraire pour vous. Mais dans la même unité de watts par mètre carré, on était en 1980 à 1,5 et on est maintenant en 2011 à presque 2,5. Donc on a une croissance systématique du chauffage de la planète, qui est très difficile à identifier de manière précise. Donc, il faut des calculs scientifiques détaillés. Il y a un certain niveau d'incertitude. Ça met en jeu des mesures satellitaires, ça met en jeu des calculs, ça met en jeu un travail énorme de milliers de scientifiques. Mais le diagnostic, il est assez clair. On est en train de progressivement modifier le bilan radiatif de la planète. Alors, maintenant, ce que je voudrais faire, et ce sera la fin des parties, disons, un petit peu compliquées et techniques, mais sont nécessaires, je crois, au début, c'est vous donner une idée d'un phénomène, justement, enfin, du caractère assez extraordinaire de ce phénomène de l'effet de serre. Vous avez ici l'effet de serre, d'abord, c'est quelque chose de naturel. Sans effet de serre, la planète ne serait pas habitable. Donc, on a des gaz à effet de serre naturellement, sans que l'homme soit obligé d'en rajouter. Le premier de ces gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Les nuages, bon, c'est pas des gaz, mais ils ont aussi un effet de serre, c'est une partie de la vapeur d'eau qui se condense. Et puis on a toute une série d'autres gaz à effet de serre parmi ceux que j'ai cités. Et vous voyez que dans cet effet de serre naturel, la vapeur d'eau, les nuages, c'est 70%, les autres, c'est 30%. Alors, que représentent ces gaz dans l'atmosphère, finalement très peu. Si on prend un mètre carré, ici, au-dessus de nos têtes, on a 10 000 kg d'air. Au-dessus d'un mètre carré, 10 000 kg d'air. Ça pèse lourd, mais on s'en rend pas bien compte, on est habitué. Mais on a 10 000 kg d'air au-dessus de nos têtes. On a 20 kg d'eau. Donc 2 millièmes à peu près. donc ces 2 millièmes de la masse atmosphérique, ils font l'essentiel d'un effet de serre naturel, alors qu'on chiffre, bon, peu importe, à 150 watts par mètre carré, ce qu'on peut dire, c'est que l'effet de serre, pour nous, c'est, en gros, l'effet de serre naturel, c'est 30 degrés en plus à l'échelle de la planète. C'est une planète qui serait complètement gelée et qui, en fait, est une planète qui est vivable grâce à cette petite quantité de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère. Sans cette petite quantité de vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère, la planète serait entièrement gelée et serait très peu, serait pas habitable, sauf peut-être au fond des océans. Donc, cet effet de serre naturel, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement nécessaire à la présence de la vie sur Terre. Et puis, au-delà de la vapeur d'eau, vous avez les autres gaz à effet de serre. Alors, on n'a pas eu le temps de regarder en détail les chiffres, mais le CO2, c'était marqué en parties par million, 300 parties par million, donc ça fait encore 10 fois moins que la vapeur d'eau. Donc, on est de l'ordre de quelques parties de millième, hein, moins d'un millième de la composition atmosphérique, et malgré tout, c'est 30% pratiquement, 20% en fait pour le CO2 de l'effet de serre naturel. Ça veut dire que le climat de notre planète, il n'est pas déterminé par la quantité d'oxygène, par la quantité d'azote de l'atmosphère, mais par la présence dans l'atmosphère de gaz qui sont à l'état de traces. Et ce climat de la planète, donc, on est capable de le modifier parce qu'il dépend de quantités de gaz qui sont en toute petite dans l'atmosphère. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent assez mal compris. C'est cette espèce de fragilité du système climatique vis-à-vis de ce paramètre gaz à effet de serre. Il suffit, une toute petite quantité de gaz à effet de serre sont suffisantes pour modifier de manière importante le système climatique. Alors, il y a une image qui vient de Pierre Morel, qui a été le premier directeur du programme mondial de recherche sur le climat dont je parlais tout à l'heure, aussi le créateur de mon laboratoire, et qui disait que finalement c'est un peu comme un camion. Si on veut donner des coups, si on veut essayer de le faire bouger en donnant des coups de pied dedans, généralement on n'y arrive pas, sauf si on donne le coup de pied juste sur l'accélérateur. Donc si le coup de pied est juste sur l'accélérateur, là on peut faire bouger le camion. Et les gaz à effet de serre, c'est ça, c'est un point très sensible du système climatique qui va permettre ce système climatique d'évoluer, et l'homme a la capacité de changer ce point d'appuyer sur cet accélérateur-là, parce que les quantités de CO2 qu'on met dans l'atmosphère maintenant sont suffisantes pour qu'on appuie sur cet accélérateur-là. Alors comment on peut voir ça? Quand on voit ce qu'on a ajouté depuis le début essentiellement l'après-deuxième guerre mondiale, qu'on a ajouté dans l'atmosphère en termes de CO2, de méthane, d'N2O, etc., on a un forçage dans les mêmes unités qui est 3 watts par mètre carré. Bon, 3 watts par mètre carré pour une planète comme la nôtre qui est à 300 degrés Kelvin, donc ça veut dire on perturbe ce cycle énergétique, on sait que ça fait quelques degrés. Et quelques degrés, c'est énorme. Quelques degrés, la dernière fois qu'on a perturbé notre système climatique de quelques degrés, c'est au moment du dernier âge glaciaire. L'Europe était recouverte de glace, les États-Unis étaient recouverts de glace, plusieurs kilomètres de glace, et la planète était plus froide de 5 degrés. Donc ce qu'on va voir, on va faire des calculs détaillés après, enfin je vais montrer des résultats de calcul, nous on peut aller 5 degrés plus chaud, c'est quelque chose qui est énorme, et qui est à notre portée, parce que justement ces gaz à effet de serre sont un élément sensible du changement climatique. Les fluctuations climatiques qu'on a vécues autour des 10 000 dernières années, c'est quelques dixièmes de degrés. Donc on est face à un processus qui est potentiellement important, et ça fait maintenant quelques années qu'on le sait. Alors, comment est-ce qu'on peut essayer de voir les conséquences plus précisément? Pour ça, il y a un outil qui est... ça correspond à mon métier, moi je me suis consacré à cet outil-là, c'est la modélisation. Alors, les modèles, c'est quelque chose de compliqué à expliquer aussi. Et pour essayer de dire dans quel esprit on a essayé de développer ces modèles dans nos laboratoires, un modèle, c'est une sorte d'image du système réel avec laquelle on va pouvoir jouer pour essayer de comprendre ce qui va se passer dans le futur. Donc on peut voir ça comme une planète parallèle, une planète numérique. À partir des lois de la physique, on construit une autre planète numérique dont on espère, dont on vérifie qu'elle fonctionne à peu près pour beaucoup de choses comme la planète réelle. Alors, Derrière ça, il y a des équations. Alors, je montre toujours une équation, parce que on demande toujours, mais vos modèles, qu'est-ce que vous rentrez comme données dans votre modèle? Avant tout, on rentre des principes physiques. Ces principes physiques, c'est des principes qui sont assez anciens. L'équation qui est là s'appelle l'équation Navier-Stokes. Il y a deux savants qui sont à l'origine. Il y a Navier, qui était un des premiers professeurs à l'école polytechnique, la première école qui a été fondée par la Révolution. Et George Gabriel Stokes est un Anglais qui a vécu un tout petit peu plus tard, mais qui a aussi fait ses contributions au milieu du 19e siècle. Donc une physique assez ancienne, connue depuis longtemps, à partir desquelles on a essayé de modéliser, de représenter les mouvements de l'air, les mouvements de l'eau, puis de reconstituer la manière dont ça fonctionne autour de la planète. Alors, le premier à avoir cette idée-là, c'était Richardson, un Anglais dans les années 20, puis s'est rendu compte qu'il y avait un gros problème de calcul. Essayer de faire évoluer sa planète numérique d'un pas de temps sur l'autre, toutes les quelques heures, il fallait un calcul gigantesque. Alors, il avait imaginé une espèce de grand amphithéâtre, avec des gens qui sont disposés, un peu le Parc des Princes, des gens qui sont disposés dans cet amphithéâtre, ils font des calculs, qui les passent à leurs voisins, et puis il y a deux chefs d'orchestre qui essaient d'accélérer ou de ralentir les gens qui font les calculs. Bon, c'est une vision qui était impossible à réaliser à l'époque. La manière dont ça s'est réalisé, c'est venu avec du vivant de Richardson, en fait. Il a vu ça, lui, il n'a pas participé parce que ça s'est fait dans des programmes militaires et il était pacifiste, quaker. Et donc, c'est le moment où les premiers ordinateurs ont été créés, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout pour essayer de mettre en place des programmes de guidage d'obus et des guidages d'artillerie. Les premiers ordinateurs, ça c'est les images de ces ordinateurs, ils faisaient 1 million d'opérations par seconde. Alors ça a progressé de manière colossale depuis cette époque-là. Les ordinateurs qu'on utilise maintenant font 1 million de milliards d'opérations par seconde. Et donc on est dans une autre dimension, mais c'est à partir de cette époque que la modélisation a commencé. Alors, un modèle, c'est quoi pour nous? C'est une tentative de reproduire par le calcul le système que je vous ai montré au début, c'est-à-dire d'avoir un modèle d'atmosphère, un modèle d'océan, avoir un modèle d'atmosphère où on a aussi une chimie atmosphérique, un modèle d'océan où on a aussi une biogéochimie, c'est-à-dire du zooplancton, du plancton, enfin toutes ces choses-là, et puis aussi un modèle de surface continentale. Au total, ça c'est une des choses qui a fait qu'on a créé l'Institut Pierre-Simon Laplace, c'est pour mettre ça en place. Ça, de manière directe, c'est une centaine de personnes. Déjà, un modèle, c'est 100 personnes pendant 10 ans à peu près. Créer un modèle climatique, c'est... Alors, il y a une vingtaine d'instituts à l'échelle de la planète qui développent ça. Et on forme une espèce de club d'instituts qui essaient de comparer leurs résultats, de voir ce qu'ils ont obtenu avec chacun, avec leur modèle, et puis de se projeter dans le futur. Alors, comment est-ce qu'on se projette dans le futur? On le fait avec des scénarios. On essaie de regarder comment les émissions de gaz à effet de serre peuvent continuer. Et puis à partir de cette continuité des émissions de gaz à effet de serre, on peut essayer de calculer comment le climat va changer. Alors, je vais vous montrer très, très directement un ensemble de résultats qui sont les premiers exercices vraiment communs qui ont été organisés par le GIEC. Le GIEC a donné des scénarios d'émissions. Alors, ces scénarios d'émissions, je ne vais pas les montrer en détail, j'essaie de ne pas multiplier les figures dans tous les sens, mais là, on s'est arrêté dans les années 90, à 6 ou 7 milliards de tonnes de carbone. Depuis, on est passé à 10. Mais le GIEC, à ce moment-là, essaie de voir comment les choses pouvaient continuer. Donc, il y a eu des scénarios qui se sont basés sur de la socio-économie. Donc, est-ce qu'on imagine un monde qui est plus ou moins mondialisé, qui est plus ou moins sensible aux aléas environnementaux, qui a développé certaines techniques énergétiques ou pas? Et comment se font les émissions? Alors, les émissions se sont faites... Enfin, le GIEC a distingué des scénarios plus optimistes ou plus pessimistes. Le scénario le plus optimiste que je vais vous montrer, c'est un scénario où, en gros, on passe par 8 milliards de tonnes en 2040. Alors, vous voyez que nous, on est déjà passé au-dessus. 8 milliards de tonnes en 2040, et puis on redécroît vers les valeurs de 90 en fin de siècle. Et puis, il y a des scénarios où, au contraire, on multiplie nos émissions par 3 ou 4 d'ici la fin de ce siècle. Et quand on regarde ce que ça fait dans nos planètes artificielles d'imposer ce type d'évolution, alors on voit que bon, vous avez par exemple le scénario vert, c'est le scénario optimiste. Bon, les différents modèles donnent pas exactement les mêmes résultats, mais en gros, c'est très, très largement dû au fait qu'on ne comprend pas encore très bien ou suffisamment bien comment les nuages peuvent agir dans un climat qui se réchauffe, mais ou réagir dans un climat qui se réchauffe, mais on est entre un peu moins de 2 degrés, un peu plus de 3 degrés hein, pour la partie pour les scénarios optimistes. Et pour les scénarios pessimistes, vous voyez que on peut dépasser 6 degrés de réchauffement en fin de siècle. Actuellement, on est plutôt en train de se diriger vers les scénarios pessimistes, mais enfin, on en est aussi au début, on est ici en 2013. Deux choses que je voudrais faire remarquer. D'abord, c'est que ce qui nous inquiète en tant que climatologue, c'est pas tellement le réchauffement actuel. Le réchauffement actuel, bien sûr, on a certains éléments qui montrent qu'il existe. Je vais y revenir juste après. Mais ce qui nous inquiète, c'est dans ce qu'on observe, c'est bien ce que ça peut anticiper de changements futurs. C'est pas ce qu'on observe déjà aujourd'hui. Ce qu'on observe déjà aujourd'hui n'a de valeur que parce que ça anticipe des changements qu'on peut imaginer dans le futur. Et l'autre point, c'est que bon, il y a une limite qui a été donnée par les négociations internationales. Bon, c'est un accord qui vaut ce qu'il vaut parce que les moyens pour le respecter sont pas tout à fait là, ils sont même pas là pour le moment. C'est-à-dire, il faudrait ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement parce que quand on étudie les conséquences d'un réchauffement de 2 degrés, on voit que c'est un peu une limite approximative à partir desquelles les choses deviennent vraiment, conduisent à un monde qui est vraiment un peu différent d'une autre. Et vous voyez, ce seuil de 2 degrés, il est atteint selon les modèles et selon les scénarios entre un peu moins de 2040 à peu près, un peu avant la milieu de ce siècle ou après le milieu de ce siècle, mais aux alentours du milieu de ce siècle. Donc c'est quelque chose qui est en fait proche, c'est-à-dire qu'on va aller dans un monde assez différent d'une autre à l'échelle des 20, 30, 40 prochaines années. Donc c'est pas demain, mais c'est malgré tout proche, et c'est quelque chose qui dépend des émissions d'aujourd'hui, puisque je vous ai dit, tout ce qu'on émet reste dans l'atmosphère sur des périodes assez longues de plusieurs décennies. Donc ça, c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui. Alors, les modélisateurs ont essayé de faire d'autres expériences. Et en particulier, moi je vais sauter quelques diagrammes, d'essayer de regarder ce qu'il faudrait pour rester à 2 degrés. Alors vous avez ici, on va regarder juste le diagramme de gauche. On a fait, et c'est les derniers rapports du GIEC, des expériences un peu différentes où on se dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire si on veut rester dans les limites de 2 degrés? Bon, si on doit rester à la limite de 2 degrés, on doit s'imposer de pas mettre trop de gaz à effet de serre, et on peut calculer en fait ce qu'on doit faire. Donc c'est on appelle travailler par objectif. Donc on se donne un objectif qui est de pas dépasser 2 degrés. Bien, les émissions de CO2 à ce moment-là doivent être celles qui sont en bleu foncé. Si on est en bleu clair, on stabilise le climat mais à un niveau de réchauffement plus élevé, et si on est en rouge, ben là on laisse le climat dériver. C'est le scénario du laisser faire, qui est le scénario rouge. Donc, le scénario qui consiste à revenir en dessous de, enfin, à rester en dessous de 2 degrés, il impose quelque chose qui est quand même très difficile à imaginer. C'est-à-dire qu'à partir de 10 ou 20 ans, on entame une réduction qui nous ramène à un niveau qui est celui du début du 19e siècle en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est quelque chose qui reste un objectif en sorte de ligne de mire pour la négociation internationale, mais je crois qu'il y a peu de gens qui pensent qu'on pourra y arriver, surtout dans le contexte politique actuel. Donc, la conséquence, c'est qu'enfin, il faut se préparer à un changement climatique. Et ça veut dire qu'il faut s'adapter aux perspectives de changement climatique. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau par rapport à ce qu'on pouvait penser il y a 10 ou 15 ans. Cette réalisation du fait que les choses sont récentes, mais vont vite, et vont nous concerner aussi dans un futur qui est proche. Et il faut essayer de s'y préparer. Et il faut s'y préparer en s'adaptant préventivement aux conséquences possibles de ces changements climatiques. Alors maintenant, ce que je vais essayer de montrer, c'est quelles peuvent être justement les conséquences possibles de ces changements climatiques Alors, il y en a une première qui est le changement de température. Les gaz à effet de serre, ben, les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui justement agissent sur le climat de la planète via le réchauffement, en empêchant, je dis, la planète de se refroidir. Alors, il n'y a pas égalité géographique. Il y a des régions qui vont être plus sensibles que d'autres. Vous voyez que sur ces cartes, alors il y a deux séries de cartes ici. C'est un réchauffement où on émet de plus en plus de gaz à effet de serre quand on va de haut jusqu'en bas. Et on regarde les résultats à deux échelles, 2020-2029, et on voit que finalement ça ne change pas grand-chose d'émettre plus ou moins de gaz à effet de serre, parce que le climat répond aux gaz déjà émis, en grande partie, qui sont stockés depuis plusieurs décennies. Donc on en rajoute un peu plus ou un peu moins, le réchauffement de la décennie prochaine, il est plus ou moins inscrit dans ce qu'on a déjà émis. Il a cependant une structure très très claire. Il est plus fort sur les continents, plus fort aux hautes latitudes, plus fort surtout en Arctique. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fin de siècle, ces phénomènes-là sont anticipés. Mais alors là, le fait d'émettre plus ou moins de gaz à effet de serre a un impact extrêmement fort. On voit quand on émet beaucoup de gaz à effet de serre, on peut avoir des réchauffements, par exemple dans la région arctique, qui atteignent localement et en moyenne de l'ordre de 7 degrés. Donc des choses qui deviennent cette fois-ci très très importantes. Alors, il y a un accord, je vais passer de quelques diagrammes plus, pour dire que ces évolutions-là, finalement, elles seront partout. Il y aura un réchauffement presque partout. Une zone du Gulf Stream où il y a peut-être un ralentissement du Gulf Stream peut être une zone qui se réchauffe un peu moins, mais on a un réchauffement partout. Et on peut comparer ça à ce qu'on observe. Alors, ce qu'on observe, c'est le début d'un processus. Mais néanmoins, ce début de processus, il commence à devenir significatif depuis quelques années. Vous avez ici une différence que j'ai faite en termes de... Ben, j'ai repris par Internet des chiffres qui sont ceux de la NASA. Et l'utilitaire de la NASA permet de choisir les années qu'on compare. Donc j'ai comparé les 15 années les plus récentes, 90 disponibles, 97-2012, aux 30 années d'après la Deuxième Guerre mondiale, 51-80. Et vous voyez un réchauffement qui peut atteindre quelquefois le degré sur les continents, de manière générale, qui souvent est encore de quelques dixièmes de degré, mais qui est structuré d'une manière qui est très exactement celle que les modèles anticipent depuis longtemps, et qui vous montre des réchauffements qui sont plus forts sur les régions continentales, parce qu'il y a moins d'inertie thermique sur les continents, plus forts dans les régions polaires, parce qu'essentiellement, le réchauffement reste confiné près du sol, et puis parce qu'on a aussi la fonte des glaces qui va accélérer le réchauffement, la pénétration du chauffage dans les océans arctiques en particulier. Et donc, vous avez un réchauffement qui coïncide avec ce qui a été anticipé par les modèles avant qu'on voit ce réchauffement. Par exemple, ça, ce sont des modèles qui correspondent au tout début, à l'époque de mes débuts dans ces domaines-là. On faisait aussi des modèles similaires en France. Ça, c'est le premier rapport du GIEC. Vous avez le réchauffement qui était anticipé par ces modèles, qui étaient encore plus simples que ceux qu'on fait actuellement. Mais vous avez déjà, c'était les années, fin des années 80, on avait déjà des prévisions qui disaient que ça serait plus chaud sur les hautes latitudes, plus chaud sur les continents. Et c'est ce qu'on observe depuis maintenant plusieurs décennies. Alors, il faut faire attention que ce réchauffement, c'est un réchauffement qui est un réchauffement qu'il faut prendre sur des longues périodes de temps. Vous voyez que si on regarde ces courbes-là, c'est la température moyenne de la planète. Et on considère ce qui se passe depuis 1950. Bien, depuis 1950, on a cette progression-là. Et cette progression-là, en moyenne, elle devient claire. Si on regarde sur 30, 40 ou 50 ans, on commence à voir un signal qui est très clair, avec un réchauffement qui est... Si on regarde d'une année sur l'autre, on a des évolutions qui sont celles de la variabilité naturelle du climat. D'une année sur l'autre, on a des tas de processus, El Niño, les oscillations de la mousson, qui font que le climat, chez nous aussi, on a des étés plus chauds, des hivers plus froids ou plus chauds. Tout ça fait que le climat d'une année sur l'autre varie, et que les variations d'une année sur l'autre, ce n'est pas des variations du climat, vraiment, c'est des variations de la météo, c'est des variations qui sont des variations naturelles. Et il faut faire attention à bien séparer ces variations naturelles des tendances plus lentes qui sont à l'œuvre. Alors, une autre manière de faire ça, c'est de faire des moyennes sur une dizaine d'années. Alors, on voit que sur 10 ans, ben voilà,
décennie d'après la Deuxième Guerre mondiale, enfin la décennie des années 70, 80, 90, et puis on progresse vers la décennie des 2000 à 2010. Et on voit que toutes ces décennies sont plus chaudes, hein, décennie après décennie. Et c'est quelque chose dont on peut montrer maintenant qu'à 95% des chances, quand on fait une évaluation statistique, c'est dû à l'activité humaine. Il n'y a que 5% de chances que ce soit le résultat de fluctuations naturelles du climat, cette évolution qu'on a depuis quelques décennies. Alors, il y a d'autres signes. Je suis passé quelques transparents pour rester dans mon temps. Mais il y a d'autres signes qui montrent qu'on a quelque chose d'assez cohérent avec les anticipations. C'est que dans les régions arctiques, on voit clairement cette fois des signes de réchauffement. Vous avez ici l'état de la banquise à la fin de l'été. Donc si vous regardez les années 70, à la fin de l'été, donc fin septembre, début octobre, la banquise couvre encore 8 millions de kilomètres carrés. Aujourd'hui, à la fin de l'été, alors vous voyez, ça fluctue d'année en année, c'est pas toujours le même chiffre, mais on a une décroissance qui est en moyenne assez claire. La banquise couvre entre 4 et 5 millions de kilomètres carrés, donc c'est un recul assez sensible et suffisamment sensible pour qu'il y ait maintenant toute une course à l'exploitation de l'Arctique. Les Russes ont déjà essayé de fixer des tarifs pour la traversée de l'Atlantique vers le Pacifique en passant le long de leur côte en été. Et puis, il y a des richesses dans l'Arctique qui sont à exploiter, auxquelles beaucoup de gens commencent à s'intéresser, à se réintéresser. Les Russes ont planté des drapeaux sur les extrémités de leur talus continental pour bien dire que c'est à eux. Donc ça devient des sources de convoitises importantes qui montrent que d'ailleurs, incidemment, même si les Russes disent qu'ils ne croient pas au réchauffement de la climatique, ils s'y préparent. Ils préparent même avec beaucoup de joie. Ils essaient de planter du maïs en Sibérie, de penser à l'occupation de l'Arctique. Enfin, pour eux, c'est quelque chose qu'ils voient comme spécialement bénéfique. Alors, un autre élément qui est très clair aussi, c'est le relèvement du niveau de la mer. Alors, encore une fois, on a toujours une superposition de fluctuations naturelles et de fluctuations qui sont provoquées par les activités humaines. On avait déjà un relèvement du niveau de la mer. Vous savez qu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, l'Europe et une partie en fait des zones continentales étaient un peu plus froides. On appelait le petit âge de glace. On voit les images avec le glacier de Chamonix, par exemple, qui était plus étendu que maintenant. Ça, c'est naturel. C'est probablement donc le fait qu'on a eu moins de taches solaires à ce moment-là et qu'on a aussi plus de volcanisme. Donc il y a eu un retour vers des climats un peu plus chauds qui a suivi ce petit âge de glace qui est naturel et qui se marque par des tendances à un relèvement du niveau de la mer d'un millimètre par an à peu près avant l'époque industrielle. Mais depuis, ça s'est accéléré. On est à 3,5 millimètres par an de relèvement du niveau de la mer. Il y a trois causes qui sont identifiées, qu'on peut mesurer par ailleurs. Il y a la dilatation des océans, qui sont plus chauds, qui prennent plus de place. Il y a la fonte des glaciers de montagne, qui est surveillée. Tous les glaciers de montagne, dans les deux hémisphères, sont en train de fondre. Et puis, vous avez la fonte du Groenland, qui est très claire aussi. La fonte de l'Antarctique est moins claire. L'Antarctique semble se fondre par endroits et puis se reconstituer. Et quand il fait plus chaud, il y a aussi plus de chutes de neige sur certains glaciers. Le bilan n'est pas si simple que ça à faire. L'Antarctique semble un peu plus compliqué. Mais il y a vraiment un relèvement du niveau de la mer qu'on peut associer au réchauffement. Alors 3,4 mm par an, ça fait 34 cm par siècle. Alors 3,4, hein, c'est disons, entre 3 et 5, ça fait donc de l'ordre de 35 cm par siècle. Bon, toutes les études prospectives, tous les modèles montrent que ça a des chances d'aller plus vite que ça, et on situe plutôt entre 50 cm et 1 mètre. Le relèvement du niveau de la mer qu'on atteint à la fin de ce siècle. 50 cm à 1 mètre, c'est beaucoup pour certaines régions françaises. Si on pense, par exemple, à tous les polders qu'on peut avoir en Nord-Pas-de-Calais, à toute la zone du Mont-Saint-Michel, du golfe du Morbihan, toutes les zones basses de Charente-Maritime, l'estuaire de la Gironde, la Camargue, tout ça, c'est des régions qui sont menacées par des relèvements du niveau de la mer de ce niveau-là. Et bien sûr, on a des zones de delta. Bon, je parlais de la Camargue, c'est le delta du Rhône, mais le delta du Gange, le delta du Nil, c'est des zones où il y a des millions de personnes, le delta du Mékong, qui sont des zones qui sont menacées de manière plus... avec des conséquences potentiellement plus importantes. Alors tout ça, c'est ce qu'on comprend bien, et tout ça, c'est un tout cohérent qui est maintenant admis au niveau scientifique comme représentant un certain niveau de risque. Maintenant, ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a des choses qu'on comprend un tout petit peu moins bien, et que c'est peut-être pas notre faute en tant que scientifique, mais aussi parce que la nature est compliquée, et que la nature n'a pas tout décidé de ce qu'elle ferait dans le futur. Alors, ça touche à un ensemble de choses que je vais articuler entre le système climatique physique, ce qu'on a vu, la température, mais aussi le vivant et l'eau. Donc cet ensemble eau, vivant, changement climatique, ça représente des choses qui sont plus compliquées à anticiper. Alors, il y a des choses simples qu'on comprend. C'est, par exemple, la réaction de la végétation aux températures. Alors, il y a une première base de prévision qu'on peut faire. Bon, ça, c'est le résultat de modèles qu'on a fait il y a une dizaine d'années à l'IPSL. C'est un peu les premiers à faire ça. Il y a eu d'autres études maintenant, mais en gros, cette carte montre, dans un climat qui se réchauffe, les zones où la végétation a du mal à grandir aussi fort. Donc c'est ce qu'on appelle la NPP, c'est la Net Primary Production en anglais, c'est la production photosynthétique, enfin la production primaire nette. Donc c'est la photosynthèse moins la respiration des plantes. Et donc c'est la masse végétale, l'accroissement ou la diminution de la masse végétale. Et vous voyez que dans les tropiques, la masse végétale a tendance à décroître quand il y a un réchauffement. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, c'est le réchauffement est une contrainte très forte pour la végétation. Et cette contrainte très forte oblige la végétation à trouver de quoi se refroidir, de l'eau qu'elle a pas nécessairement et pas suffisamment. Et donc la végétation croît moins fortement dans les régions intertropicales. Par contre, à nos latitudes, et surtout à latitudes un peu plus élevées, on peut avoir une croissance importante de la végétation. J'ai dit tout à l'heure que la végétation reprend une partie du CO2 qu'on met dans l'atmosphère, c'est plutôt à nos latitudes et aux latitudes plus élevées. Ben pourquoi ? Ben parce que la saison de croissance de la végétation est plus grande. Hein. On a déjà des décalages importants dans les saisons de croissance de la végétation, ça devrait croître dans le futur. Et on a donc une différence très forte entre les basses latitudes et les hautes latitudes à ce niveau-là. Mais tout ça, c'est modulé aussi par les précipitations. Et là, ça se complique beaucoup. Alors, Je vais sauter quelques diagrammes pour essayer de laisser de la place à des questions, mais je voudrais dire une chose sur les précipitations, sur un diagramme qui est un tout petit peu compliqué, mais qui est très important. Vous avez ici deux cartes qui correspondent à deux mondes, un monde où on a essayé de limiter les changements de température à 2 degrés, et puis un autre où on a laissé la planète se réchauffer de 4 ou 5 degrés, à gauche, à droite. Et dans ce monde-là, on regarde comment les précipitations changent. Alors, elles changent moins, bien sûr, dans le monde de gauche, où on a laissé les précipitations, où on a laissé la température contrainte à un réchauffement limité. Dans le diagramme de droite, on voit mieux ce qui peut se produire dans un monde qui se réchauffe, et c'est les couleurs qui le montrent. On a en bleu des régions qui sont plus humides. Alors, vous voyez que près de l'équateur, on a des régions qui sont plus humides. C'est la moyenne de tous les modèles. Je parlais d'une vingtaine d'instituts, il y a une quarantaine de modèles. C'est la moyenne de tous les modèles. Et ces modèles montrent que c'est plus humide dans toute cette région-là, la région équatoriale, qui est déjà une région humide. C'est plus sec, en jaune, dans toute cette région-là, toute la région de la ceinture des déserts, qui a tendance à être plus désertique. C'est encore plus manifeste dans l'hémisphère sud. Et puis, haute latitude, on retrouve des climats plus humides. Et on comprend très bien tout ça, c'est une évolution globale de la planète. Par contre, quand on essaie de regarder au niveau régional, alors une région, pour nous, climatologues, l'Europe de l'Ouest, c'est une région. Le Sahel, c'est une région. On parle de région, ce n'est pas les régions administratives de la France. Pour les climatologues, une région, c'est une partie du monde qui est cohérente au niveau météorologique. Donc, l'Europe de l'Ouest, c'est sensible ou non à des anticyclones qui arrivent, c'est une région. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des régions où les modèles sont en accord et les modèles sont en désaccord. Alors, comment on voit ça ? Quand il y a des petits pointillés, ça veut dire que les modèles sont en accord les uns avec les autres, les différents modèles de la communauté. Donc, il y a accord des modèles pour dire qu'on a un risque de sécheresse sur l'Europe du Sud, ici. Mais quand on a des traits penchés comme ça, il y a désaccord entre les modèles. Donc vous voyez que sur le Sahel, par exemple, on a désaccord entre les modèles. Sur le Pakistan, où on a eu des épisodes de précipitations très importants, il y a désaccord entre les modèles.
Alors ça veut dire que dès qu'on arrive au problème de l'eau, on arrive sur un problème beaucoup plus complexe. Pourquoi est-ce qu'on arrive à un problème beaucoup plus complexe? C'est parce que l'eau dépend des mouvements de l'atmosphère. Tout ce que j'ai décrit sur la température, c'est un problème bête de chauffage. Vous mettez le chauffage, c'est plus chaud. C'est quelque chose. Mais dès que les mouvements de l'atmosphère... Enfin, l'eau, c'est les mouvements de l'atmosphère. Et les mouvements de l'atmosphère, c'est toujours compliqué. Et la manière dont ces mouvements de l'atmosphère peuvent changer, c'est toujours compliqué. Alors, on sait des choses, on maîtrise une partie des choses, mais... On ne maîtrise pas tout, et on n'est pas sûr que la nature elle-même maîtrise tout. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est compliqué? C'est parce que, si vous prenez par exemple la région du Sahel, elle est proche de la mousson indienne. On voit sur une carte, finalement, l'Inde n'est pas très loin. Elle a sa propre mousson. Et ces moussons-là fluctuent d'une année sur l'autre, et vont répondre différemment au réchauffement. On a aussi une oscillation, qu'on appelle l'oscillation nord-atlantique, entre l'anticyclone des Açores et la dépression d'Islande. Tout ça, ça va affecter aussi ce qui se passer sur le Sahel. Donc, tout ce qui se passe dans une région donnée dépend des régions voisines, et c'est quelque chose qui est assez difficile à prévoir, et on n'est même pas sûr que ce soit complètement prévisible. Donc, les changements régionaux de précipitation, à la différence des changements régionaux de température, sont très difficiles à prévoir. Et ça, c'est quelque chose qui nous oblige à envisager les changements futurs sous un angle un peu différent, qui est celui des risques climatiques. Alors, on se retrouve un peu dans la situation des sismologues qui nous disent, vous êtes sur une zone de faille, il y a un risque de séisme. Ben, nous, on est sur une zone où la précipitation peut changer, il y a un risque de changement de la précipitation. On n'est pas très sûr quand, finalement, on sait peut-être un peu mieux que les sismologues, mais dans quel signe, avec quel signe, par rapport aux sismologues, nos incertitudes à nous, on n'est pas très sûr comment ça va se manifester. Alors, une manière de comprendre ça pour la région française, par exemple, c'est de regarder ces petites cartes qui sont à gauche. Alors, ces petites cartes, vous reconnaissez sans doute le tracé des continents, le tracé l'Europe à droite, l'Amérique à gauche, l'Atlantique au milieu. Et ce qui est superposé à ça, c'est des anomalies de pression. Donc, quand c'est bleu, on va vers des basses pressions atmosphériques. Quand c'est jaune ou rouge, on va vers des hautes pressions atmosphériques. Quand c'est rouge très fort, ça veut dire qu'on est dans des anticyclones qui viennent se superposer. Alors, en haut, vous avez un système, c'est celui que j'ai dit rapidement, d'oscillation entre anticyclone des Açores et c'est la North Atlantic Oscillation, NAO, avec une phase positive, une phase négative, et qui est une oscillation entre anticyclone des Açores et dépression d'Islande. En bas, vous avez des systèmes qu'on a bien connus l'année dernière. Vous avez, ou cette année, en fait, plutôt dans cette année, vous avez ici un anticyclone qui se pose et qui reste sur le milieu de l'Atlantique. Et puis, ça fait du temps pourri sur l'Europe. Vous avez, au contraire, l'anticyclone et c'est ce qu'on a eu au printemps. Puis, vous avez l'anticyclone qui se pose et qui reste sur l'Europe elle-même. Et en été, ça fait chaud. En hiver, ça fait très froid. Et voilà, c'est des états qui sont des états préférentiels de l'atmosphère sur l'Europe. Et si vous regardez les petits pourcentages, c'est le temps que passe le système atmosphérique proche de chacun de ces états. Donc, vous voyez, c'est pas loin d'être un quart, un quart, un quart, un quart. Donc, l'atmosphère, dans nos latitudes, elle décide, un petit peu au hasard, qu'elle va aller vers tel état ou tel autre état. Et ce que peut faire le changement climatique, c'est changer, c'est pas empêcher un de ces états-là. Il y aura toujours une oscillation entre ces états-là, mais c'est dire je vais favoriser un de ces états. Et par exemple, je vais favoriser, alors on pense dans un climat plus chaud, on risque de favoriser cet état-là, le blocage, ou cet état-là. Et les deux sont des états qui vont nous amener cette sécheresse que montrent les projections climatiques sur l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il fera toujours plus sec, mais ça veut dire qu'on aura des années de sécheresse intense. Et donc c'est la manière dont on doit essayer de se projeter dans le futur qui doit être comprise comme cela. On va avoir des années avec des phénomènes intenses, mais on n'est pas exactement capable de dire quand ni comment de manière précise. Alors tout ça nous amène
Alors, je vais peut-être pas, c'est un diagramme compliqué en anglais, je vais essayer de laisser autre chose plus jolie, là, et puis je rediscuterai de ça ensuite. Mais regardez pas l'image tout de suite, je vais juste essayer de dire quelques mots. Ça nous amène à considérer le changement climatique sous un angle un peu différent quand on essaie de dire il faut se préparer à des changements. Se préparer à des changements, ça ne veut pas dire qu'on est capable de se préparer à des choses qu'on est entièrement capable de prévoir. Ça veut dire qu'il faut essayer d'imaginer des modes de développement où l'aléa climatique soit ait le moins de conséquences possible. Hein, on n'est pas capable de prévoir, on sait que ça va se réchauffer. On n'est pas trop capable de savoir comment l'eau va changer, mais on sait que l'eau va changer. Il faut se prévoir, il faut anticiper un mode de développement où on laisse le moins de part possible au hasard. C'est-à-dire où on laisse le moins de part possible au changement hydrologique, par exemple. Alors, moi, je pense depuis déjà un certain temps que c'est quelque chose qui est important et que, bon, si on regarde les choses honnêtement, on est face à un changement dont on ne pourra pas empêcher au moins une partie de se produire. Même si on réduit vraiment les gaz à effet de serre, on n'arrivera probablement pas à les réduire suffisamment vite pour empêcher tout changement. Alors, moi, je suis d'origine aquitaine, hein, je suis d'origine bordelaise, j'ai un nom breton qui se prononce d'ailleurs le Treut, avec le T à la fin, mais je suis d'éducation aquitaine et j'étais un peu rattrapé par le conseil régional d'Aquitaine qui m'a demandé d'essayer de faire un travail, donc un petit peu orienter ce travail vers l'étude des impacts du changement climatique dans nos régions. Et bon, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de se dire, finalement, il va y avoir des changements qui sont des changements auxquels il faut se préparer. On ne sait pas exactement lesquels, mais on peut essayer de regarder système économique par système économique. Alors, je ne vais pas le faire en détail, mais en gros, on a regardé les grands types de cultures, la vigne, les pins de la forêt des Landes, les cultures vivrières du Lot-et-Garonne, on a regardé la montagne, on a regardé le trait de côte, on a regardé les... Et on voit un certain nombre d'impacts qu'il faut essayer de possible, qu'il faut essayer de minimiser. Alors, il y en a qui sont très clairs. J'ai gardé deux exemples. C'est par exemple pour tout ce qui est projection agricole, et là, c'est avec la vigne, bien sûr, en région bordelaise, mais ça pourrait être d'autres. On voit des changements dans les dates de floraison ou dans les dates de maturité des produits agricoles qui sont extrêmement importantes, qui sont à l'échelle. De 2100, ça peut être presque 2 mois d'évolution dans les dates de floraison ou de maturité, dans des choses qui peuvent être extrêmement. Alors, je dis 2 mois, enfin, là, ils mettent 1 mois ou 1,5 mois, c'est le côté un peu marseillais, sinon bordelais, mais en tout cas, on est dans des changements qui sont importants, qui se chiffrent en mois, en termes d'évolution de ces dates de floraison. Ben, ça pose des problèmes très, très concrets qui sont. Peut-être loin d'une certaine forme de catastrophisme, mais c'est important pour la région bordelaise. Est-ce qu'il faut rester sur des cépages actuels? Est-ce qu'il faut changer de cépage? Bon, c'est tout un ensemble de choses auxquelles on peut se préparer. De manière, peut-être plus, cette fois, avec des conséquences plus difficiles, plus fortes. Bon, il y a des régions qui ont des risques de submersion. Alors, il y a la zone littorale. La zone littorale, elle réagit surtout aux vagues, à l'érosion par les vagues, par les courants. Est-ce qu'il y aura plus de tempêtes? On voit des vagues qui arrivent, qui traversent l'Atlantique. On n'est pas très sûr de savoir comment ça peut changer, mais il y a éventuellement des changements à anticiper, à surveiller. Dans l'estuaire de la Gironde que vous voyez à droite, vous avez en jaune les zones là où il y a des risques de submersion. C'est des zones qui sont plus importantes et qui sont directement cette fois liées au relèvement du niveau de la mer. Et la progression de ce relèvement du niveau de la mer dans l'estuaire, où il y a des marées. Ben voilà, ça veut dire qu'il y a des questions qu'on peut se poser dès maintenant. Est-ce qu'il y a des zones qu'il faut défendre préventivement avec des digues? Est-ce qu'au contraire, il faut dès maintenant déterminer que ces zones-là, on ne les défend pas, donc les populations qui y habitent, il faudra peut-être préventivement leur demander de se reloger. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de choses qu'on peut regarder aux échelles régionales. La montagne, c'est aussi un domaine extrêmement complexe qui est très affecté par tout ça. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire finalement 2 choses. Je pense que les changements actuels sont des changements qui sont des changements au niveau scientifique dont on a maintenant beaucoup d'indices qu'ils sont réels. Ce sont des changements qu'il n'y a qu'une manière de les empêcher, c'est de réduire effectivement nos émissions de gaz à effet de serre.
Et je pense que c'est une priorité absolue. Alors, la France va organiser dans 2 ans la réunion climatique Paris 2015, qui se veut une deuxième chance après Copenhague d'avoir un accord international. Donc il y a un effort important qui est fait, mais on n'empêchera pas tout. Donc il faut se préparer aussi à s'adapter à ces changements. Et cette adaptation au changement, c'est aussi une bonne occasion, sur un territoire donné, de mettre le climat en contexte plus large des autres problèmes environnementaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas que le climat comme problème environnemental qui est devant nous. On a la protection de la biodiversité. La montagne, c'est un exemple remarquable à ce niveau-là, où les deux se lient de manière extrêmement étroite. On a les problèmes d'alimentation, les problèmes d'eau, très sensibles dans certaines régions africaine, par exemple. On a les problèmes aussi de justice sociale qui sont associés à toutes les mesures qu'on peut prendre d'équilibre politique autour de géopolitique autour de ces problèmes-là. Donc c'est un ensemble beaucoup plus complexe de processus dans lequel il faut placer les changements climatiques. L'échelle régionale est une bonne échelle pour commencer ce diagnostic. Voilà, je m'arrêtais là.